Parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Et c'est bien ça que dit Montaigne. On ne peut pas avoir trois amis. On ne peut pas avoir deux amis. On ne peut en avoir qu'un. Et comme ils le disent, ce qui est quand même assez formidable, il n'y en a pas eu d'amitié comme la leur en trois siècles.
Leur prénom ?
Étienne et Michel.
Leur nom ?
Nous nous embrassions par nos noms, disait Michel de Montaigne à propos d'Étienne de la Boétie.
Leur rencontre.
1557, dans une fête à laquelle assistent les membres du Parlement de Bordeaux. La Boétie en est un conseiller bien établi, alors que Montaigne, venu d'une juridiction plus modeste à Périgueux, y est à peine accepté.
Ont-ils une grande différence d'âge ?
À leur rencontre, la Boétie, 27 ans, déjà marié. Montaigne, 24 ans. Le premier juge le second, toujours célibataire, trop dissipé. Montaigne est encore dans la dépendance de son père qui voit en la Boétie un bon garde-fou pour son fils.
Les travaux et les jours.
Les deux hommes vont se trouver d'emblée dans une telle intimité qu'ils ne sentiront plus les coutures de leurs âmes. Néanmoins, ils ne vont pas siéger souvent ensemble à Bordeaux parce que chacun est souvent appelé à l'extérieur, la Boétie par exemple, pour mener des missions de concorde en cette période troublée des guerres de religion. Mais l'éloignement n'est pas nécessairement une entrave à leur partage.
Leurs œuvres.
Avant de rencontrer la Boétie, Montaigne avait déjà lu son discours sur la servitude volontaire qui circulait en version manuscrite. Et Montaigne promit d'en faire le cœur battant de ses essais. Finalement, il ne publia pas le discours, mais dans le livre 1 de ses essais, il célébra leur amitié. Et il avait auparavant longuement décrit les derniers moments d'Étienne dans une lettre à son père, en 1570.
La mort de la Boétie.
Dès août 1563, Montaigne, en lui assurant des obsèques sans fin, a assuré sa survie, mais dans les conditions qu'il avait organisées. Celui qui survit dans un couple devient un peu le propriétaire de l'autre, disparu.
Et la mort de Montaigne.
Plus tard, en 1592, il avait l'âge d'être le père de la Boétie. Tous deux sont restés catholique, c'est Montaigne qui est mort en écoutant la messe dans sa chambre.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Alors, nous sommes déjà sur le sentier de la guerre et par les temps troublés que nous vivons, nous avons besoin de textes qui nous calment. Et avec Montaigne, nous tenons un auteur qui ne se dresse pas sur ses ergots, il ne cherche pas les faits, il nous propose seulement ses essais comme autant de nourriture que nous pouvons partager tranquillement avec lui. Car c'est l'homme du « nous » et pas du « moi, je ». Une grande amitié, on l'a dit, a fondé sa vie. Le souvenir lui en sautait souvent à la gorge. Exemple, 1581, en écrivant une lettre, il tombe, je cite, en pansement si pénible au sujet de monsieur de la Boétie, et il fut si longtemps sans me raviser que cela me fit grand mal. 1581, la Boétie était mort depuis près de 20 ans, mais des images se sont constituées dans la tête, dans le cœur, et elles restent aussi présentes qu'à l'instant où elles sont nées. On dit souvent que l'image du Christ apparaît peu dans l'œuvre de Montaigne, mais il y a la Boétie. Mort à l'âge du Christ, à près de 33 ans, au bout d'une agonie dont Montaigne a consigné chaque moment dans le détail dans une lettre à son père.
Après nous être assis autour de son lit, nous quatre seuls, il dit ainsi d'un visage posé et comme tout éjoui, « Mon oncle, ma femme, je vous assure sur ma foi que nulle nouvelle atteinte de ma maladie ou opinion mauvaise que j'ai de ma guérison ne m'a mis en fantaisie de vous faire appeler pour vous dire ce que j'entreprends. Car je me porte, Dieu merci, très bien et plein de bonne espérance. Mais J'ai délibéré de mettre quelque ordre à mes affaires domestiques après en avoir eu votre avis, premièrement.
La lettre à son père, enfin, que Montaigne écrit à son père sur la mort de la Bessie, est une lettre tout à fait extraordinaire. Elle est extraordinairement délicate, extrêmement sensible, et d'un mot, elle est presque à pleurer, quoi.
Et puis, adressant son propos à son oncle, « Mon bon oncle, dit-il, j'ai toujours dit que tout ce que un très sage, très bon et très libéral père pouvait faire pour son fils, tout cela avez-vous fait pour moi. » Et puis, détournant sa parole à sa femme, « Ma semblance, dit-il, ainsi l'appelait-il souvent pour quelque ancienne alliance qui était entre eux, ayant été joint à vous du saint nœud de mariage, qui est l'un des plus respectables et inviolables que Dieu nous ait ordonné sabbat pour l'entretien de la société humaine, je vous ai aimé, chéri et estimé autant qu'il m'a été possible, et suis tout assuré que vous m'avez rendu réciproque affection, que je ne saurais assez reconnaître. Je vous prie de prendre de la part de mes biens ce que je vous donne, et vous en contenter, encore que je sache bien que c'est bien peu au prix de vos mérites. »
Notre accointance, dit Montaigne, a pris commencement seulement 6 ans avant la mort de Monsieur de la Boétie. Les deux jeunes hommes appartenaient certes au même milieu, les parlementaires qui, dans les grandes villes, rendaient la justice au nom du roi, mais la Boétie, l'aîné, occupait une place autrement élevée. Son beau-père était le président du Parlement de Bordeaux, lui-même était déjà un conseiller influent appelé à rejoindre un jour le Parlement de Paris. Et Montaigne, lui, était entré au Parlement de Bordeaux sur la pointe des pieds, avec ses confrères d'une juridiction moins prestigieuse, Mornay, la Cour des aides de Périgueux, dont les membres avaient été versés à Bordeaux, où ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. Eh bien, la Boétie ne s'est pas laissé arrêter par les préjugés, il a fait bon accueil au jeune Michel, qu'il a jugé digne d'être son confrère, et qu'il choisit même comme son ami. La ville de Sarlat, plus tard, a fait dresser une statue à la Boétie. Une représentation totalement imaginaire. Pour savoir qui est le personnage à ce moment-là, nous ne disposons en fait que du témoignage de Montaigne qui dessine seulement une silhouette. Et nous avons deux interlocuteurs, deux compères, Jean-Michel Delacomté, qu'on a déjà entendu, et Alain Le Gros. Alors je ne vais pas énumérer les titres de leurs livres, ils préféreront s'entendre dire que Montaigne leur a toujours fait du bien.
Il y a un passage assez étonnant où Montaigne évoque la Boétie en disant qu'il était très costaud, mais qu'il avait le visage grêlé. Un visage assez laid, en vérité. C'est tout. Donc c'était un sportif. Il est mort, entre autres, parce qu'il a pris sans doute un coup de froid au jeu de paume. C'était certainement un homme vigoureux, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne pense pas que c'était un bellâtre, d'après ce qu'on peut déduire de la phrase de Montaigne. Pour son physique, au-delà, difficile de dire.
Il parle de la laideur à un moment donné, puis comme ça, incidemment, et Montaigne dit cette, il y a des laideurs qui viennent d'un détail du visage, en général, qui dégoûte au premier abord. Il dit dégoûté, hein. Ça peut être une tache, ça peut être une protubérance, ça peut être des choses comme ça, quoi, des problèmes, ce qu'on appellerait une envie, ou une bosse, ou quelque chose comme ça. Et il dit la laideur de la Boétie était de ce prédicament, de cette sorte, c'est-à-dire une laideur superficielle qui ne touchait pas du tout l'ensemble de son corps très bien proportionné. Je résume là, hein. Mais l'âme était très belle. Voilà, une belle âme dans un corps qui n'est pas disgracieux, mais qui peut donner un mouvement de recul dans un premier temps, physiquement. Ça me paraît intéressant de le signaler. Montaigne dit cela à propos de son ami. Et il y a quelque chose qui fait évidemment penser aux Silènes ou à Socrate. Hein, la beauté de Socrate.
Alors, il faut dire qu'avant d'avoir rencontré la Boétie, Montaigne l'avait déjà admirée parce qu'il avait lu un texte que la Boétie laissait circuler en version manuscrite. Un texte qui va avoir une importance considérable et dans leurs échanges et pour la postérité. Le discours sur la servitude volontaire, dont l'originalité n'est pas de choisir comme seule cible le tyran, ça serait attendu, mais les tyrannos que nous sommes déjà quand nous nous soumettons aux tyrans.
Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez dire que rien n'est à vous. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand nombre infini de vos villes. Sinon qu'il a plus que vous tous, c'est l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où il a pris tant d'yeux, dont vous épie-t-il, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont les vôtres? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous autres mêmes?
La question de la tyrannie qui est rebattue. Les tyrans, il y a beaucoup de choses dans l'Antiquité contre les tyrans. Mais la chose qui est intéressante et qui est nouvelle, je crois, c'est de dire que le tyran et le peuple font la paire, en quelque sorte. Hein, que le peuple n'est pas pour rien dans la tyrannie. C'est la soumission volontaire du peuple, volontaire ou inconsciente, ou etc., qui fait qu'il y a une tyrannie. Et il n'y aurait pas de tyrannie sans tyranno, c'est-à-dire sans toute une hiérarchie de gens qui sont soumis et qui soumettent, qui sont soumis et qui soumettent. Et c'est l'ensemble d'un système, voilà un terme qu'on peut utiliser là, je crois, plus peut-être qu'ailleurs, c'est l'ensemble d'un système qui est ainsi décrit. Que dit, on lit bien hein, le texte, que dit la Boétie, il ne dit pas « révoltez-vous ». Il dit pas ça. Il dit, ça peut revenir au même, mais dites non. Cessez d'obéir, c'est la désobéissance civile. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant pour notre époque. Hein.
Simone Goyard-Fabre.
Le tyran, c'est l'unique. C'est celui qui veut tout faire tout seul. Et qui, pour arriver à ses fins, eh bien, pour être tout, fait que les autres ne sont rien. Autrement dit, il n'a que mépris vis-à-vis de l'humanité. Il fait que les hommes sont ni plus ni moins annihilés. Ils sont réduits au rang de bêtes. Mais s'ils sont devenus des bêtes, c'est du fait même du tyran ou, ce qui d'ailleurs est très subtil dans la pensée de la Boétie, du fait de ceux qui sont les complices du tyran, de ceux que l'on pourrait appeler des tyrannos, et qui sont, eh bien, 6 sous le tyran, puis 600 sous ses 6, puis 6000 sous ses 600, et qui finalement eh bien, font de la tyrannie un véritable enfer. Mais je crois que le plus important chez la Boétie, et c'est d'ailleurs le sens du titre de ce factum, le plus important, mais c'est la condition de ceux qui sont des serfs, de ceux qui sont, enfin des serfs, au sens où on peut dire, ils sont asservis, ils sont dans un état de servitude. Mais l'important, c'est que cette servitude est volontaire. Et c'est là, je crois, le gros problème. Comment peut-on vouloir la servitude? Comment peut-on vouloir être esclave? Je crois que c'est là tout ce qui fait l'originalité de ce texte.
Alors Montaigne, comme la Boétie, rêve sans doute de petites républiques dont la constitution serait fondée sur l'amitié. Il n'y a plus d'amitié dès qu'il y a la tyrannie. Mais il reste fidèle à la dynastie royale. C'est pas un appel à la révolte. Par nature, il faut être loyal là où on est né. Mais les écrits importants échappent à leurs auteurs comme les enfants devenus grands à leurs parents. Montaigne, de son vivant même, verra le discours sur la servitude être publié, mais à la façon d'un pamphlet, après les massacres de la Saint-Barthélemy de 1572. Et il pensera que les réformés assignent les écrits d'autrui à une place dessinée par leurs préjugés. Plus tard, le destin posthume du discours, en revanche, sera de servir d'emblème à toutes sortes de libres penseurs qui auraient bien étonné la Boétie, qui voulait seulement penser librement.
Montaigne, une très belle formule. Il dit « La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute ». Et je la trouve très intéressante pour nous aussi, pour tout le monde. Quand on écrit un texte, si quelqu'un le lit de travers... Ben tant pis, il fallait pas l'écrire, enfin, je sais pas, il fallait pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. Alors, notre ami La Boétie, à partir de 1574, il y a 4 textes imprimés, et chez les protestants, par des protestants. Alors, quel est l'avenir à partir de là? J'ai pas fait d'études là-dessus, mais du fait qu'il devienne subversif, notre ami La Boétie, il intéresse Marat à la fin du XVIIIe siècle, hein, presque vers la Révolution. Il intéresse les révolutionnaires. Après, il va être publié vers 1848, et donc il devient un texte. Son texte devient un texte révolutionnaire au fond. Hein. Par la suite, on va en reparler de nouveau, et on en reparle de nouveau depuis mai 1968. Pour être clair, hein, dans les années 70, etc., Guattari, d'autres, voilà. Moi, j'habite à côté de Saint-Pierre-des-Corps. C'était un bastion communiste, hein, un réseau ferroviaire, etc., très important. Et juste à côté de la gare, il y avait, ça n'existe plus, mais il y avait le café-brasserie La Boétie. Parce que La Boétie, il était communiste, si vous voulez, hein.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Montaigne et La Boétie ne se sont-ils pas connus beaucoup moins longtemps qu'on l'imagine?
Et puis se sont connus dans des années, on va pas dire de révolution, mais de grands troubles. Les guerres de religion auraient pu disjoindre Montaigne et La Boétie, d'autant que les dangers étaient tels que chacun, à l'époque, par prudence, était tenté de penser, comme en disait Montaigne, par derrière. Ainsi, en 1559, 2 ans après que les amis ont fait connaissance, le roi Henri va mourir des suites d'un accident de tournoi. Mais il a fait auparavant éliminer une étoile du Parlement de Paris qui avait été le maître de La Boétie. Alors qu'en a pensé celui-ci? À qui pouvait-il s'en ouvrir? À Montaigne, sans doute. Jean-Michel de la Comté.
Il faut voir comment a été constitué le royaume. Le roi, bien sûr, et puis il y a les parlements régionaux. Et lui fait évidemment partie, comme Montaigne au début d'ailleurs, du parlement de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'Aquitaine, de Bordeaux donc. Et donc, il y a indiscutablement, là il y a un conflit si vous voulez, et il y a un conflit qui a duré tout l'Ancien Régime en vérité, entre le roi lui-même, les parlements, et parmi les parlementaires, bien évidemment, La Boétie, pour sa région, a joué un rôle tout à fait important. Et c'est aussi pour ça que la question de la fidélité au royaume se pose. C'était le milieu des magistrats, du droit. Et évidemment, du même coup, la question politique de représentation et d'incarnation du royaume, comment ça doit se
mais se la faire. Boétie, c'est un élève d'un grand maître du droit qui s'appelait Jean Dubourg, qui ensuite a été un parlementaire important à Paris, enfin qui n'a pas été parlementaire longtemps, parce que il a affronté directement le roi, Henri II, au moment d'une séance à laquelle le roi assistait. Oui. Et il va se retrouver pendu haut et court et brûlé. Alors on sait, on devine ce que la Boétie a pensé de tout ça.
Mais justement, c'est la question qui se pose aussi. Il y en a certains qui ont pensé que la Boétie était protestant. Pourquoi ? Il a suivi ses études de droit à l'Université des Lois d'Orléans, précisément sous la conduite de Dubourg, qui était protestant. Et il a été, son professeur a été victime de ses choix politiques et religieux en France. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y avait un doute sur sa foi. Et c'est sans doute, enfin c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles Montaigne tient tellement à signaler, à signifier qu'il est un bon catholique pour évacuer les doutes possibles. C'est vrai que c'est assez curieux quand même. On pouvait se poser la question sur la teinture religieuse de la Boétie.
Mais la Boétie mourant dit qu'il reste fidèle à la loi que Moïse a plantée.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Là aussi, c'est étrange. Enfin, moi, j'explique pas tout dans la loi que Moïse a pensée. On pourrait quoi penser qu'il est juif ? Regardez, sur Montaigne, on a pu dire qu'il était peut-être... issu d'une famille, sa mère était juive peut-être, ou marane, etc. Bon, j'ai lu un livre, je me souviens, il y a un certain nombre d'années, qui essaye de démontrer ça, mais on ne démontre rien du tout. Montaigne est quelqu'un qui a quelque chose du lézard, il est capable aussi de, par prudence, ça se comprend, hein, vu l'époque, de laisser planer le doute, et en tout cas, il ne le dit pas tout. Et donc, il ne le dit pas tout, ni sur lui-même, ni sur la Boétie, ni sur d'autres, sans doute, d'ailleurs. Il y a cet art du secret chez Montaigne, qui rend aussi d'ailleurs sa pensée difficile parfois. Qu'est-ce qu'il pensait au fond ? Vous voyez ? Donc, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'assuré sur la Boétie. Et je vais vous dire, selon moi, c'est même pas tellement important, sauf, et on a raison d'avoir cette curiosité, naturellement, compte tenu de l'importance du personnage, mais comme la Boétie existe par Montaigne, et que c'est Montaigne qui lui donne son existence, en quelque sorte, et qui le fait vivre... Je trouve que l'essentiel, c'est quand même de l'envisager en relation avec son, non pas du tout son biographe, mais son ami.
On peut penser que les deux amis veulent croire en la possibilité d'unir le pays en remaillant ce qui se défait. Mais la France craque de toutes parts. Après la mort d'Henri II, c'est le règne du jeune François II qui ne va durer qu'un an. Montaigne d'ailleurs l'accompagnera jusqu'à Bar-le-Duc. Après ce roi miniature, un roi enfant, 10 ans à son avènement, c'est Charles IX. Les incidents se multiplient, les actes iconoclastes, les violences physiques. La Boétie croit nécessaire une réforme mesurée de l'Église, mais juge illicite la désobéissance armée. En janvier 1562, un édit est négocié à Saint-Germain-en-Laye par la régente Catherine de Médicis et le chancelier Michel de l'Hôpital qui admet la liberté de conscience et permet la liberté partielle du culte. La Boétie est réputée avoir écrit un texte sur cet édit, ce qui ne signifie pas qu'il prône constamment le compromis. Alain Le Gros.
La grande question qui se pose à propos de la Boétie, c'est de savoir s'il est l'auteur ou non d'un texte dont parle Montaigne et qu'on a retrouvé à la fin du XIXe siècle. Et ce texte, c'est « Mémoire sur l'édit de janvier ». Or, ce mémoire est écrit, si c'est la Boétie, et moi je pense que je fais partie des gens qui pensent que c'est bien lui, ce mémoire indique qu'il faut ne faire aucune concession confessionnelle avec les protestants. Il est venu pacifier. Il a été envoyé à Agen pour pacifier. Voilà. C'est-à-dire avec un rôle éventuellement répressif. Et donc, il dit qu'il faut, dans ce mémoire, il, si c'est lui donc, dit qu'il faut être intransigeant sur les dogmes, mais qu'il faut accepter certaines choses dans la pratique.
Donc ils sont partisans, pensez-vous, de la politique de compromis.
Mais ils sont pour une concorde, mais ils veulent le royaume est démembré, hein, et ces gens-là, en tant que parlementaires, j'ai pu montrer ça en trouvant cela dans les registres secrets du Parlement de Bordeaux, à Bordeaux et à Paris, que l'un puis l'autre avait fait partie de la chambre de la Tournelle. Et la chambre de la Tournelle jugée au criminel, j'ai regardé un peu dans ce qu'il faisait, bah, ce que devait-il faire, je dis pas qu'ils l'ont fait, mais que devait-il faire, éventuellement dire si on allait torturer ou pas, jusqu'à quand, avoir des aveux, et puis assister, de toute façon ils assistaient à des choses qui avaient lieu assez souvent à l'époque, c'est-à-dire des démembrements de suppliciés. Hein. Par exemple, on coupe un corps en cinq, la tête, et puis les quatre également, et puis on met ça aux quatre coins de la ville, hein, par exemple. Vous voyez, des démembrements, c'est quelque chose que Montaigne utilise beaucoup pour parler de l'état de la France, hein, et il n'est pas le seul.
La France terre de sang. Deux mois après l'édit de Saint-Germain, 1562, janvier, les protestants sont victimes d'un massacre à Vassy. Et leurs chefs leur font prendre les armes, mais aussi plusieurs villes. Tentant de récupérer Orléans, le duc de Guise, le chef de l'armée catholique, perd la vie. Nous sommes maintenant en février 1563. En mars, une trêve est signée à Amboise. C'est sur ces entrefaites que la Boétie est envoyée une nouvelle fois en Agenais pour une mission dite de concorde. La concorde peut être entendue comme une manière forte, on l'a compris. À son retour, il est pris de maladie. À l'époque, la guerre s'accompagne d'épidémies. Laquelle a touché la Boétie ? Une peste, une tuberculose ? On ne sait. Il n'a pas eu le temps de regagner sa ville de Sarlat. Et c'est dans la famille de Montaigne qu'il s'alite. Montaigne qui sera son dernier interlocuteur, enfin le mot interlocuteur est beaucoup trop faible, successeur bien plutôt.
Mon frère, dit-il, que j'aime si chèrement et que j'avais choisi parmi tant d'hommes, je vous supplie pour signal de mon affection envers vous, vouloir être successeur de ma bibliothèque et de mes livres que je vous donne. Présent bien petit, mais qui part de bon cœur et qui vous est convenable pour l'affection que vous avez aux lettres, ce vous sera de votre compagnon.
Dans sa tour devenue fameuse, Montaigne fera construire un meuble pour abriter les livres de la Boétie, les rapprocher aussi des siens avec une inscription dédiée à la Boétie qui va courir au-dessus du meuble. Dans ce bureau, dans ce cabinet, il y a aussi des poutres peintes avec des inscriptions en grec, que Montaigne entend moins que la Boétie, et des inscriptions en latin. D'ailleurs, a dit la Boétie sur son lit de mort, cette bibliothèque, ce sera le souvenir tui sodalis. Sodales, le mot latin.
Dans l'inscription disparue aujourd'hui, mais que j'ai pu restituer, qui se trouvait dans la bibliothèque de Montaigne.
Les inscriptions sur...
Une inscription...
Les poutres.
Non pas sur des poutres, mais en haut du meuble de bibliothèque et qui faisait le tour de cette pièce ronde et qui était consacrée donc à la Boétie.
Voilà. Alors l'inscription, qu'est-ce qu'elle disait ?
Oh, elle est longue l'inscription. Elle dit que ce meuble qui fera les délices de Montaigne, donc, hein, est dédié au plus merveilleux, au plus doux, au plus etc. C'est extrêmement emphatique, hein, des sodales. Hein.
Alors sodales, il y a un mot qui n'est plus usité, mais sodalité.
Oui.
La sodalité, c'est un cercle, un réseau, disiez-vous, de gens qui se considèrent comme égaux.
C'est très important, la question de l'égo est libre. Oui. Et par-dessus les antagonismes confessionnaux, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que par une espèce d'ouverture de l'esprit, on descend au niveau de l'autre, mais on descend. On n'est pas dans une attitude ni de relativisme, hein, en matière de dogmes religieux, etc. Et donc, et la Boétie et Montaigne sont catholiques, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qui est prouvé par leurs actions. Hein, c'est là où ils servent. Mais les liens de sodalité, là, ces rapports sont des rapports entre humanistes, entre esprits férus de lettres anciennes et qui ont un idéal de liberté et d'égalité. Mais cet idéal, c'est un idéal ancien, antique, hein, d'une république romaine avant César, avant l'Empire, avant etc.
Compagnon, ami, sodales, c'est pas facile de trouver le mot juste. On pourrait aussi chercher ce que n'est pas précisément cette amitié. Ce n'est pas une affection familiale. Montaigne avait en haute estime son père, mais il ne voulait pas lui ressembler. Et héritier un moment contrarié, il savait que le fils attend la fin du père pour voler de ses propres ailes. Ben, ce n'est pas non plus une amitié pédérastique. Il y a dans celle-ci trop d'inégalités entre l'aîné et le plus jeune. Ce n'est pas une amitié érotique que Montaigne aurait peut-être aimé trouver chez une femme.
Si on pouvait avoir une amie femme, ce serait encore bien mieux. Il y aurait des rapports d'égalité, l'un pourrait être le garant de l'autre, hein. Ce serait ce qu'on appelle les âmes sœurs aujourd'hui, mais il y aurait plus que des âmes, il y aurait aussi le corps. Et le corps serait quelque chose de plus, hein, dit Montaigne, si c'était une femme. Mais l'éducation des femmes fait que l'état de la société fait que ce n'est pas possible et bon, on ne va pas faire de Montaigne un féministe avant l'heure, mais quand même, vous avez cette phrase, hein, les femmes n'ont pas tort de refuser les règles de notre société, il n'y a pas société, mais c'est à peu près ça, parce que nous les avons faites sans elles, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Les femmes n'ont pas tort de refuser des règles que les hommes ont faites pour eux-mêmes et non pas en pensant à elles. Ça, c'est quand même très, très, très important, ça, je trouve. Et il a rêvé d'une amie humaniste, etc. La même que lui en femme, en quelque sorte. Hein.
Ça, c'est Montaigne. Mais si on en revient à la Boétie, sur son lit de douleur, en août 1563, il a fini par écarter sa femme, qu'il appelle pourtant sa semblance. Et quand la mort approche, c'est à Montaigne qu'il s'adresse.
Mon frère, me dit-il, tenez-vous auprès de moi, s'il vous plaît. Et puis, ou sentant les pointes de la mort plus pressantes et poignantes, ou bien la force de quelques médicaments chauds qu'on lui avait fait avaler, il prit une voix plus éclatante et plus forte et donnait des tours dans son lit avec tout plein de violence, de sorte que toute la compagnie commença à avoir quelque espérance, parce que jusque-lors la seule faiblesse nous l'avait fait perdre. Lors, entre autres choses, il se prit à me prier et reprier avec une extrême affection de lui donner une place. De sorte que j'eus peur que son jugement fût ébranlé. Même que lui ayant bien doucement remontré qu'il se laissait emporter au mal et que ses mots n'étaient pas d'homme bien rassis, il ne se rendit point au premier coup et redoubla encore plus fort. « mon frère, me refusez-vous donc une place ?»« Dieu vous en donnera une meilleure bientôt, lui fis-je. » Y fussé-je déjà, mon frère, me répondit-il. Il y a 3 jours que j'ahanne pour partir. Étant sur ses détresses, il m'appela souvent pour s'informer seulement si j'étais près de lui. Une heure après ou environ, me nommant une fois ou deux, et puis tirant à soi un grand soupir, il rendit l'âme. sur les 3 heures du mercredi matin 18e d'août, l'an 1563, après avoir vécu 32 ans, 9 mois et 17 jours.
Donnez-moi une place, donnez-moi un lieu. C'est très étrange, mais il dit bien à Montaigne qu'à ce moment-là, il est en train de délirer, son ami. L'abbé, il délire, mais il tient des propos qui méritent d'être rapportés, puisqu'il les rapporte. Pourquoi le fait-il? Pourquoi dit-il ça? Pourquoi rapporte-t-il ces termes-là, ces mots, ces propos de l'abbé ici? On peut se poser la question. Moi, je m'interroge. Je n'ai pas la réponse. C'est impossible d'avoir la réponse. On ne peut avoir que des conjectures. Et parce que c'est ça, l'abbé ici. C'est celui sur lequel on ne peut avoir que des conjectures.
Monsieur Lebrun, pensez-vous que sans Montaigne, on aurait oublié la Boétie ?
Montaigne disait « On est si peu maître de sa vie, on ne peut l'être de la vie des autres. » Sauf si les autres ne sont plus là et vous laissent la voie libre. Montaigne, d'un côté, va assurer la réputation durable de la Boétie, disparue, et d'un autre côté, il va établir autour de lui un halo qui le dissimule. Peu de noms célèbres cachent autant leur matière, observe Jean-Michel de La Comté.
Est-ce qu'il n'y a pas presque une mythification, je dirais pas une mystification, mais une mythification, une façon de magnifier l'ami? C'est de la brume, la Boétie, par beaucoup d'aspects. Vous voyez, par exemple, la Boétie a écrit des poèmes, les poemata en latin. La Boétie a écrit La servitude volontaire lorsqu'il était jeune, on ne sait même pas exactement quand. Mais autour de la Boétie, autour de leur rencontre, autour du discours de la servitude volontaire, autour également d'un mémoire sur l'édit de janvier 1562 que la Boétie, semble-t-il, aurait écrit, tout cela, c'est très brumeux. Et ce qui donne sans doute, enfin à mes yeux en tout cas, une aura en quelque sorte mythique et mystique à la Boétie et, du même coup, à leur amitié. D'abord, c'est un souvenir, la Boétie. J'ai pas mal lu Montaigne, et il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit, après la mort de la Boétie, sa propre vie, lui, Montaigne, n'est plus que manque, n'est plus que tristesse au fond. Il ne vit plus qu'à moitié, dit-il. Donc Montaigne, on l'oublie souvent, c'est, à travers ce qu'il raconte en tout cas sur ce point, c'est l'homme des souvenirs, c'est l'homme d'un temps passé. Et ce temps passé est incarné, mais c'est la jeunesse en même temps. Est incarné par la Boétie.
Oui, mais pour l'avenir, Montaigne, c'est le canal qui va permettre au nom de la Boétie de circuler encore. Le canal, mais aussi bien le filtre. Ainsi, Montaigne promet-il de construire ses essais autour du discours sur la servitude volontaire, qu'il a l'intention, explique-t-il, de placer au centre de son dispositif. Sauf qu'il ne le fera pas. Il signe la dédicace d'un espace, qu'il ne laissera certes pas vide, puisqu'il y glisse 29 sonnets de son ami, dont il va assurer la publication. Mais enfin, tout de même, l'impression du discours, ça aurait eu une autre allure. Alors, pourquoi ce recul, Jean-Michel de La Comté encore?
Il y a ce passage, tellement connu des essais, où il semble dire, moi ce que j'ai écrit, moi Montaigne, ce que j'ai écrit, ça vaut pas grand-chose à côté de la servitude volontaire. Mais la vérité, elle n'est pas là. C'est qu'il pense exactement le contraire, à mon avis. Et il sait très bien que l'œuvre majeure qu'il est en train d'écrire, que son œuvre, est infiniment plus importante que que la servitude volontaire. Parce qu'il reproche une chose à la servitude volontaire. Si on fait le rapprochement, La servitude volontaire, le discours de la servitude volontaire sous sa plume, ça devient quoi? C'est un ouvrage quasiment académique. Un essai, dit-il, qu'il a fait dans sa grande jeunesse à 16 ans. Et s'il avait continué à vivre, il aurait fait quelque chose de beaucoup mieux encore. Donc en vérité, il en donne une vision, une image, Montaigne donne une image magnifique de son ami, mais en même temps, son œuvre majeure, la maîtresse, il la considère avec d'un œil relativement critique. J'irais presque aujourd'hui dans un sens, et peut-être à ça, il pense à ça, encore une fois, il était presque, oui, disons, trop lisse, vraiment trop académique, peut-être presque trop universitaire, en quelque sorte, si on voit ça d'aujourd'hui, comme aujourd'hui, trop académique.
Trop politique aussi, trop dangereusement politique. En fait, Montaigne a sans doute reculé devant l'impression du discours à cause de l'utilisation que commençaient à en faire les protestants. On a vu qu'après le massacre de la Saint-Barthélemy, ils avaient débuté leurs impressions, leurs éditions du factum. Et Montaigne ne peut donner l'impression de s'associer à ces initiatives. Cela ferait croire que la Boétie, comme lui, ont été partisans des nouveautés de la réforme.
J'ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière et à mauvaise fin. Je me suis dédié de le loger ici. Et afin que la mémoire de l'auteur n'en souffre en l'endroit de ceux qui n'ont pu connaître de près ses opinions et ses actions, je les avise qu'il avait une autre maxime, souverainement empreinte en son âme, d'obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né. Il ne fut jamais un meilleur citoyen, ni plus affectionné au repos de son pays, ni plus ennemi des remuements et nouveautés de son temps. Il eût bien plutôt employé son talent à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage.
Alors évidemment, il a été souvent reproché à Montaigne d'avoir comme étouffé la voix de la Boétie. Montaigne, dit Jean-Michel de La Conté, au fond ne pense pas comme la Boétie. C'est un homme de la sagesse. La Boétie avait des projets collectifs que Montaigne ne peut partager. L'écrivain gascon Bernard Mancier dit « Moi, si je l'avais eu comme ami, j'aurais pas eu confiance. » Le dramaturge Jean-Claude Idée, qui aime bien mettre en scène des face-à-face entre personnages historiques, a même imaginé la Boétie revenant toquer à la porte de la tour de Montaigne, fort mécontent de voir son discours escamoté.
Que fais-tu là ?
Je suis venu pour que tu me rendes justice.
Tiens, je me suis retiré là, loin des bruits du monde, parmi tes livres. Je les feuilletais. Souvent, ils étaient annotés de ta main. Les essais sont nés de cela. C'est à toi seul, au fond, tu le sais, qu'ils s'adressent. Ce sont des conversations à mi-voix, avec un spectre.
Tes essais n'étaient qu'un modeste écrin pour mon discours. Cet écrin est-il resté vide?
Les temps avaient changé, tiens. Le discours était un bout de feu. Les protestants auraient pu s'en emparer pour en faire leur cheval de bataille.
Ils l'ont fait, depuis, tu le sais. Les calvinistes ont publié des fragments de mon texte mutilé, sans même citer un nom d'auteur. Ils ont perverti le sens de mon discours pour le tirer à eux. Tout est ta faute. Si tu m'avais publié le premier, tu aurais préservé ma mémoire.
C'était impossible. Les guerres de religion s'envenimaient. Ton rêve de démocratie aurait pu remettre en question l'autorité de nos rois. Voulais-tu que j'ajoute la révolution à la guerre civile?
Tu veux dire que mon discours aurait pu trouver des partisans?
Et de toutes parts, c'était à craindre. C'était du vitriol jeté à la face des tyrans.
Qu'avais-tu besoin d'emboîter mon discours dans tes essais? Il fallait le publier à part, et sans en endosser les effets.
J'ai agi pour le bien public.
Tu as agi dans ton intérêt.
Alors ce sont des conjectures, on va revenir pour finir sur le point de vue d'un de nos interlocuteurs, Alain Le Gros, qui voit, observe, ne croit que ce qu'il voit. Il pratique l'histoire matérielle du livre. Il a eu en main nombre des quelques 130 exemplaires survivants des premières éditions des essais du Vivant de Montaigne. Et notamment, le fameux exemplaire de Bordeaux, le volume de l'édition de 1588 que Montaigne a annoté jusqu'à sa mort en 1592. C'est en marge de cet exemplaire qu'il identifie la fameuse formule qui a débuté notre émission et qui caractérise si bien l'amitié que Montaigne et la Boétie ont pratiquée. Formule qui apparaît, c'est important, en deux temps.
J'avais repéré une... J'étais d'ailleurs pas le premier, mais je le savais pas à ce moment-là. Que une page, la page, la fameuse page où Montaigne dit on me demande parfois ce que pourquoi je l'aimais en 88, il répond c'est dommage de ne pas avoir le texte exact là, mais il répond qu'il ne peut pas répondre, voilà, qu'il ne sait pas, voilà. Et puis il ajoute dans la marge de l'exemplaire de Bordeaux, donc après 88, je rappelle qu'il est mort en 92, il ajoute, je ne peux répondre qu'en disant « parce que c'était lui ». Tiens donc.
Donc en marge.
En marge. Parce que c'était lui. Et d'une autre encre. Plus tard, plus pâle, parce que c'était moi. Vous avez donc un ascendant qui s'est transformé en réciprocité.
À Alain Le Gros, il faut aussi être reconnaissant de tenir compte des différents états historiques de la langue. Réciprocité, égalité sont des mots récents. Montaigne a introduit l'égalité, mot du XVe siècle, dans l'amitié telle qu'il la présente. Mais à l'époque, revenons au sens ancien dominant, l'amitié renvoie davantage à l'amour qu'aujourd'hui. Si l'amitié, Montaigne de la Boétie, garde un sens si fort, c'est qu'elle joint tous les sens que le mot peut avoir, les anciens comme les nouveaux. Remerciements à Jean-Michel Delaconté, un de ses derniers livres, Adieu Montaigne. Remerciements à Alain Le Gros, qui vient de faire paraître les 80 jours de Montaigne. Les lectures, Grégoire Roqueplot. À la technique, Lucien Lefebvre, Yann Frécy, et à la Maison de la Radio et de la Musique, Jérémy Kaufmann. C'était une réalisation conjointe, on ne voit pas les coutures, dirait Montaigne, d'Étienne Bertin et Audrey Ripouille.